Bon, là, donc, on arrive en fin de cycle qu'on avait commencé donc début décembre, et voilà qu'on achève ce cycle. Comme on a été peut-être très sérieux, trop sérieux, je vais peut-être introduire un aspect un peu plus léger aujourd'hui, mais néanmoins, restons sur la question des révolutions, des crises au XVIIe siècle. Mais alors là, c'est un livre qui, je ne sais pas si c'est si célèbre que ça en France, mais ça a fait sa carrière dans le monde anglophone. C'est un livre qui s'appelle donc 1066 and All That, 1066, vous voyez, et qui a pour sous-titre donc A Memorable History of England, comprising all the parts you can remember, including 103 Good things, five bad kings, and two genuine dates. Donc voilà, pour vous dire que les Anglais sont parfois assez légers avec leur histoire, mais pas toujours, pas toujours. Alors, donc, les révolutions, et en particulier 1688, date donc fatidique, grande révolution. Et alors donc, on va commencer avec cette révolution précisément, mais en Thaïlande. Parce que, comme on le sait, 1688, c'était aussi considéré comme un moment quand il y a eu une grande révolution politique, justement, dans le royaume thaï. C'est une révolution dans laquelle les Français ont joué un rôle non négligeable. Par conséquent, il y a aussi eu une production non négligeable de textes en français autour de cette révolution. Donc là, vous voyez un exemple, l'histoire de la révolution de Siam, arrivée en l'année 1688. Là, vous voyez donc le début que nous dit, particularité de la révolution de Siam, arrivée en l'année 1688. La révolution arrivée au royaume de Siam est un des plus fameux événements de nos jours, soit qu'on la regarde du côté de la politique ou de la religion. L'éloignement des lieux où les choses se sont passées n'a pas empêché que tout le monde n'y prît autant de part qu'à celles qui se font parmi nous. Donc, bien sûr qu'il y a aussi eu d'autres révolutions, donc en 1688, peut-être moins importantes, peut-être plus importantes. En tout cas, donc, pourquoi cette révolution en Thaïlande, dans le royaume de Siam, c'est quoi en fait le contenu de cette révolution? On sait que dans les années 1680, il y a eu des contacts assez considérables entre le royaume de Thaïlande et les pays européens. Par exemple, un des plus célèbres, c'est ce moment quand le roi thaï, Narai, envoyait donc des ambassadeurs ici à Versailles, où ils se sont présentés à Louis XIV, dans le cadre d'une tentative de signer un traité entre les Thaïlandais et les Français pour plusieurs raisons. Donc, il y avait un aspect commercial. Les Français voulaient s'installer dans ce royaume pour y commercer. Il y avait aussi un aspect religieux, car les contacts avec cette région ont été menés, entre autres, par les missionnaires des missions étrangères, dont Monseigneur Palu, proche parent de Monsieur le Gousse de la Boulaye. Mais il y a aussi un autre aspect, c'est-à-dire que les Français avaient des ambitions militaires dans la région, comme on verra par la suite. Et d'ailleurs, d'un certain point de vue, ça, c'est le début, d'une certaine façon, même si c'est un début assez compliqué, des projets français par rapport à l'Indochine. Parce qu'à la suite de ça, à peu près 100 ans après, il y a l'autre projet dans les années 1780 autour justement de Vietnam. Et finalement, on sait ce que ça a donné au 19e siècle. Mais alors, voilà le début de l'intérêt français pour cette région. Mais alors, pourquoi ça et comment est-ce que les Français, par exemple, sont arrivés à avoir un rôle dans ces pays comme l'auteur de ce texte dit lointain, dans l'Asie du Sud-Est. Alors, il faut comprendre quelque chose, c'est-à-dire que la Thaïlande au XVIIe siècle, c'est vraiment un grand carrefour pour tout ce qui est la présence des étrangers. Et d'ailleurs, la cour thaïlandaise est une espèce de vivier de différentes sortes de personnes venant d'horizons extrêmement différents. Alors, donc, des Anglais, on aura brièvement l'occasion de parler des Anglais, comme par exemple ce monsieur Samuel White, qui est un célèbre corsaire et pirate, qui a joué un rôle capital pendant un certain temps ici, hein, vous voyez, à Mergui et à Tenasserim, hein, sur le golfe de Bengale, qui faisait partie du royaume Thaï à l'époque. Mais il y a aussi d'autres sur lesquels je vais revenir. Alors, donc, rappelons rapidement de quelques dates pour éclaircir la situation. Donc, en 1629, il y a un changement de dynastie et un homme fort qui s'appelle Prasad Tong va prendre le pouvoir. Il est un notable de la cour, mais dans une guerre de succession qui a eu lieu plus ou moins à la fin du règne du roi précédent, Song Tam, Prasad Tong va prendre le pouvoir. Mais ce qui est intéressant, c'est comment il arrive à faire ça et sur quelle base de pouvoir. Et là, vous allez voir des couches intéressantes, des différents niveaux d'une présence donc, étrangère. Parce que Prasad Tong prend le pouvoir avec l'aide de mercenaires japonais. Donc, il y a en particulier un grand homme qui a joué un rôle capital dans la Thaïlande des années 1620-1630, qui s'appelle Yamada Nagamasa, qui est un Japonais qui fait partie de ce qu'on appelait autrefois les Ronin, c'est-à-dire ces samouraïs qui sont partis du Japon dans le cadre de la guerre civile, mais qui ont continué à être à l'étranger, surtout en Asie du Sud-Est, pendant la première moitié du XVIIe siècle, et Yamada Nagamasa a autour de lui donc un groupe de Japonais, et c'est en utilisant ces Japonais que Prasad Tong va donc prendre le pouvoir, et peu de temps après, il va se débarrasser de ces Japonais pour les remplacer avec des intermédiaires chinois, cette fois-ci venant du sud-est chinois. Donc vous voyez que déjà dans la cour, on a ces deux présences. Par la suite, donc, à la mort de Prasad Tong, il y a donc la succession de Narai, son fils. Et alors Narai, a d'autres idées. Il s'est pas mal intéressé dans les rapports avec l'Inde et en particulier avec l'Inde islamisée. Et donc, du coup, quand on regarde le règne de Narai et surtout des années 1650, 1660, 70, on remarque qu'il y a une autre présence, et c'est une présence donc iranienne, à la cour de Thaïlande. Donc, les Iraniens vont prendre le pouvoir pendant un certain temps. Ils ont l'idée que peut-être Narai va se convertir à l'islam, ça ne s'est jamais produit. Mais néanmoins, on sait que les Iraniens ont joué un rôle donc assez capital. Ils ont même arrivé à changer la culture de cour. La façon de s'habiller de Narai a changé. Ils commencent à s'habiller à la persane. Ils commencent à manger du mouton, qui n'était pas tellement dans les coutumes à l'époque, dans la cour. Et donc, il y a toute cette espèce de transformation, cette acculturation, mais cette fois-ci, envers autre chose, qui est donc cette présence iranienne. Ça ne veut pas dire que les Japonais ont disparu ou que les Chinois ont disparu, c'est tout simplement une question de couche après couche qui va se présenter. Et donc, en particulier, il y a un homme fort qui s'appelle donc Aka Mohammad Astrabadi, un Iranien, et qui va donc jouer un rôle assez prépondérant à la cour dans les années 1660-1670. C'est à ce moment-là que les Anglais arrivent et commencent à faire leur commerce sur les côtes de Thaïlande. Et donc, les Anglais, au départ, ont rapport avec les Persans, mais petit à petit, les Anglais vont commencer à jouer un rôle de contrepoids. Et là, chose un peu étonnante, c'est-à-dire, dans l'intérieur de cette présence anglaise, arrive un Grec qui s'appelle Konstantin Gerakis, qui est un Grec qui avait été à Londres, qui avait donc été converti manifestement à l'anglicanisme, et donc qui est arrivé justement avec ce monsieur-là, Samuel White, qui était devenu, donc vous voyez ici, Chabandar de Tenasserim, donc qui était devenu plus ou moins le chef du port de Tenasserim dans les années 1670. Ce Grec, Gerakis, peu de temps après, va décider de changer son identité, de redevenir grec en quelque sorte, c'est-à-dire il va changer son nom et il va prendre ce nom assez curieux qui est de Falcon. Parce que Gerakis veut dire faucon. Mais au lieu d'écrire faucon, normalement, il écrit ça un peu à la grecque avec le PH. Et donc, en tant que Falcon, il commence à grimper dans l'hierarchie à l'intérieur de la cour. Donc, vous voyez maintenant, on a une cour où il y a donc la présence japonaise, la présence chinoise, la présence iranienne et la présence anglaise, dans laquelle il y a un grec qui se glisse et qui, petit à petit, va devenir ce qu'on appelle Fraklang, qui va devenir donc plus ou moins le vizir de Narai. Alors, donc, il est là à partir de 1675, mais comme je vous ai dit, il change Falcon avec le temps. Tout d'abord, il se convertit, il devient catholique, pour différentes raisons, entre autres parce qu'il se marie avec une luso-japonaise, avec une femme qui est d'ascendance en partie portugaise et en partie japonaise, et qui s'appelle Maria Guiomar. Et donc, à partir de ce moment-là, il a des rapports avec les missionnaires. Et donc, vous voyez qu'on a pas mal de ces lettres de signer ici, Falcon. Hein, et ce sont des lettres écrites dans un portugais un peu boiteux. Il n'a pas d'idée très claire de genre, entre autres, il faut dire. Mais néanmoins, c'est écrit dans un portugais et dirigé à plusieurs personnes. Ça, ce sont des lettres de 1680. Des gens dans l'hierarchie religieuse, des gens dans l'hierarchie aussi de la compagnie française, etc. Et donc, c'est dans ce cadre que finalement, Falcon va décider de faire quelque chose qui est assez risqué, c'est-à-dire de monter un coup d'État pour complètement écarter les Iraniens. Et pour faire ça, il va demander aux Français de venir s'installer dans deux forteresses au Thaïlande, qu'il va leur donner, donc une forteresse qui est sur le site de Mergui et l'autre, d'ailleurs, sur le site qui va devenir plus tard Bangkok. Et alors, donc, les Français sont installés là. Ici, vous voyez la forteresse à Bangkok des Français. Mais il a mal calculé sur le fait que, là, finalement, les Thaïlandais, la noblesse thaïlandaise, ne peut plus supporter ces espèces d'êtres tirés dans un sens et dans un autre. Donc, il y a une espèce de réaction de la noblesse thaïlandaise qui va se monter contre Falcon d'une façon assez sanglante. Le roi, à l'époque, est malade, Narai, et donc une série de hommes forts thaïlandais vont donc prendre le dessus et tout d'abord, ils vont donc mettre en prison à Falcon, ensuite il sera décapité. Les Français seront donc expulsés par la suite de leur forteresse et on aura donc, à la mort de Narai, peu après, la succession d'un homme fort qui va fonder une nouvelle dynastie, c'est donc Phetracha, hein, en juillet 1688. Voilà la révolution thaïlandaise. Donc, c'est quoi le résultat de cette révolution? En effet, il y a tout d'abord changement de dynastie. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, il y a une espèce de rejet d'un certain type d'ouverture envers l'arrivée des élites étrangères. C'est-à-dire, il y a une espèce de nouveau, un autre équilibre qui va se créer entre élites locales et élites étrangères. Parce que par la suite, on va toujours garder, bien sûr, les Japonais, les Chinois, les Persans, etc., mais dans une place mineure. Et troisièmement, il y a aussi cet autre aspect qu'il ne faut pas oublier, c'est-à-dire à la fin du 17e, début du 18e, donc il y a aussi un désir de la part de l'élite thaïlandaise de contrôler le commerce externe et de faire en sorte que le commerce passe par leurs mains, hein, et que ça ne soit pas donc, un commerce libre comme ça a été dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. Donc ça, c'est une révolution comme une autre, c'est-à-dire il n'y a pas eu de changement au niveau de type de régime, on est toujours resté dans un régime monarchique, mais néanmoins, c'est un changement en quelque sorte, à la fois du point de vue d'orientation et du contenu au niveau de la composition de la cour et même de la dynastie. Alors, donc, ça, c'est une façon d'aborder 1688. Il y a bien sûr d'autres façons d'aborder la même chose, et ça serait donc en prenant d'autres perspectives. Et donc, je vous signale en passant quelqu'un qui a déjà fait cette tentative de reprendre 1688 d'une façon plus large, c'est donc le sinologue et historien John Wills qui avait écrit ce livre, d'ailleurs, qui n'a pas eu la réception qu'il mérite. D'ailleurs, c'est un livre qui s'appelle 1688, une histoire globale, qui a été publié il y a peut-être une vingtaine d'années, dans lequel M. Wills, en fait, fait des chapitres où il met côte à côte des expériences différentes en 1688. Donc, il y a un chapitre sur l'Inde, un autre sur la Thaïlande. Justement, il traite cette question en passant, mais aussi ce qui se passe en Europe, ce qui se passe au Portugal, en Amérique ibérique, etc. Donc, c'est quelqu'un qui fait ça, mais c'est une histoire globale sans être en réalité une histoire connectée parce que ces différents chapitres n'ont pas forcément des liens très forts entre eux. C'est plutôt une espèce de tentative de mettre côte à côte des expériences diverses et différentes. Et d'ailleurs, parmi ces choses, il y a un aspect dans lequel M. Wills s'est distingué pour justement faire une espèce d'histoire, disons, connectée, c'est-à-dire parce qu'il a aussi fait une histoire diplomatique sur les envoyés néerlandais et portugais qui sont allés à la cour Qing en Chine dans les années 1680. Donc là, vous voyez qu'il y a quand même une possibilité de rapport entre une histoire orientale et, soi-disant, une histoire occidentale où ces diplomates qui vont faire les allées et venues. Alors, mais en réalité, si on dit 1688, même si je plaisantais tout à l'heure, quand on dit 1688, on revient à cette question anglaise et britannique. C'est-à-dire, c'est là où on est censé avoir eu la grande révolution, la révolution glorieuse, comme on l'appelle dans l'historiographie anglaise, qui est aussi parfois, comme dans ce livre excellent d'ailleurs, ouvrage collectif, pris un peu comme il faut, c'est-à-dire comme un événement qui est un événement anglo-néerlandais. C'est-à-dire, c'est un événement qui ne peut pas être confiné à l'intérieur de l'histoire anglaise, car ça a eu un effet assez énorme sur les Pays-Bas, mais aussi parce qu'un des acteurs principaux, c'est justement Guillaume d'Orange, qui en 1688 va arriver en Angleterre pour donc déplacer son beau-père, hein, Jacques II, pour prendre le pouvoir avec sa femme. Et donc, voilà, vous voyez, donc William et Mary, ici, signant un texte, un édit de l'époque. Donc, il y a ce rapport très étroit qui existe entre l'histoire donc, anglaise et l'histoire néerlandaise de ce moment. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit tout simplement, d'un certain point de vue, d'une petite invasion. C'est-à-dire, Guillaume d'Orange va prendre sa flotte, il va arriver ici, à Torbay, en novembre 1688, il débarque là. Il y a une certaine résistance, mais il s'avère que Jacques II n'est pas en condition vraiment de résister, car il mène une politique militaire très confuse, parce que aussi quelque chose d'autre qui n'est pas sans importance, c'est-à-dire aussi l'arrivée de Guillaume a déjà été préparée, hein, parce qu'il y a eu énormément de propagande contre Jacques II depuis 3 ou 4 ans. Et voilà donc la question essentielle qui trouble toujours les historiens de l'époque. Et c'est pourquoi ce changement a pu se faire avec aussi peu de violence. Il y a eu de la violence, mais relativement peu. Donc pourquoi aussi peu de violence? Et aussi la question qui se pose, c'est quoi finalement la signification de cet événement de 1688? Voilà donc une question qui trouble les historiens depuis toujours. Il y a des gens travaillant sur l'histoire militaire qui ont traité la question de débarquement à Torbay, une autre tentative qu'il y a eu quelques semaines avant qui a échoué. Mais surtout, il y a donc la grande question qui s'est posée autour de 1688, à la fois pourquoi et quels sont les résultats. Et là, je vous mentionne deux livres qui posent le problème de façon plus ou moins opposée, qui sont tous les deux relativement récents. Le livre de Tim Harris, qui pose le problème sur une durée un peu plus longue, c'est-à-dire en prenant tout cela, en allant jusqu'à l'autre changement de dynastie avec l'arrivée des Hanovériens en Angleterre, hein, donc la fin de la dynastie, pas seulement de Stuart et Orange, en gros. Et il y a cet autre livre qui est beaucoup plus provocateur, et je vais donc dire quelques mots sur ce livre parce que c'est un bon point de départ pour comprendre comment, même aujourd'hui, les historiens de l'Angleterre ont tendance de prendre cet événement et son contenu. C'est écrit donc par un historien américain de Yale, Steve Pinkus, et si vous regardez le sous-titre déjà, il y a une provocation là. Hein, parce qu'il dit que 1688, c'est la première révolution moderne. Et en quoi est-ce qu'il s'agit de la première révolution moderne? Parce que cela veut dire, à la fois, il faut qualifier ça en tant que révolution moderne, et il faut bien sûr aussi disqualifier les révolutions qui se sont passées avant ou au même temps. Hein, par exemple, bien sûr, je pense que si on disait à M. Pinkus, est-ce que vous considérez que la révolution à Thaïlande en 1688 était une révolution moderne? Il n'aurait même pas pu penser à ça, probablement. Parce que, manifestement, les révolutions modernes, pour un certain type d'historiographie, peuvent se passer qu'en Occident. Voilà. Donc, vous aviez ça, cette tentative de dire, voilà, 1688, la première révolution moderne. Et c'est quoi la thèse? La thèse, c'est, en fin de compte, assez simple. La thèse, c'est la suivante. Donc, vous voyez que Charles II revient de la France, après cet épisode de Cromwell qu'on avait traité il y a deux semaines. Et il, pendant à peu près 15 ans ou 20 ans, il reste plutôt sage. Il ne fait pas énormément de choses pour bousculer les choses. Mais vers la fin de son règne, il commence quand même à démontrer certains signes de centralisation. Mais en fait, il y a une grande accélération dans les années 1680 quand le frère de Charles II, Jacques II, va prendre le pouvoir. Donc Jacques II a un certain nombre de qualités qu'il faut prendre en compte. Tout d'abord, c'est un homme qui a des ambitions assez démesurées. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui est catholique. Et il n'est pas seulement catholique, il est ouvertement catholique. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'avec quelques dizaines de milliers de catholiques qui restent en Angleterre au début de son règne, il va essayer de transformer l'Angleterre en pays catholique. Alors, donc, selon Pinkus, il y a une ancienne historiographie qui pose les choses de la façon suivante, donc qui pose les choses comme si Jacques II serait quelqu'un d'extrêmement conservateur qui avait envie de, pour ainsi dire, de ramener l'Angleterre vers le Moyen-Âge, donc vers une espèce qui avait un projet plutôt ringard, etc. Tandis que finalement, la révolution de 1688, c'est moderne dans le sens qu'on se libère enfin de ces vieilles querelles religieuses pour aller vers, et donc pas seulement une économie moderne, mais aussi vers une société moderne. Alors la différence avec Pinkus, c'est que Pinkus nous propose qu'en effet, ce qui est en jeu en 1688, c'est deux projets de modernisation. Donc il y a un projet de modernisation, comme il dit, de modernisation catholique, et il y a un autre projet de modernisation tout court. Donc c'est quoi, vous remarquez qu'il ne s'est pas considéré comme une modernisation protestante, mais de modernisation. Alors c'est quoi la différence? Donc pour lui, Jacques II est fasciné par Louis XIV. Donc, il a passé beaucoup de temps en France, il prend Versailles et la cour de Louis XIV comme son modèle. Il a envie, selon Pinkus, de transformer l'Angleterre dans une espèce de version plus ou moins à son échelle de la France de Louis XIV. Et pour cela, donc, il veut affirmer son absolutisme, il veut affirmer aussi un pouvoir centralisateur, il veut aussi faire en sorte que l'armée anglaise soit beaucoup plus importante. Et il a aussi envie de faire quelque chose, c'est-à-dire, comme dans la France de Louis XIV, il a aussi envie de mettre en place un système dans lequel les marchands ne seront pas trop importants. Donc, où, en effet, les marchands auront un rôle plutôt secondaire dans cette société qui deviendrait, en quelque sorte, une société moins commerciale par rapport à la société qui a fait qui était émergé donc à la fin de la guerre civile anglaise. Et alors donc selon Monsieur Pinkus, donc de l'autre côté, on a un projet qui est vraiment un projet modernisateur dans la mesure où c'est basé sur le capitalisme commercial. Donc il y a deux projets, une qui aurait pu être un projet aussi intéressant et aussi peut-être aurait pu donner un autre type de modernité, mais celui qui a triomphé pour lui, c'est un projet où donc le capitalisme commercial, le rationalisme donc capitaliste et aussi en quelque sorte un type de sécularisme dans lequel la religion deviendrait totalement secondaire dans la politique. Voilà le projet qui est prôné et soutenu pour lui par Guillaume III et les gens autour de Guillaume III. Alors donc, en quelque sorte, pour lui, la révolution de 1688, c'est le rejet du modèle français. Et par contre, le soutien donné à un autre projet qui serait un projet donc de qui va finalement produire la révolution industrielle. Donc, pour lui, en quelque sorte, la révolution industrielle, c'est déjà présent en embryon en 1688, car on a déjà, à ce moment-là, libéré le capitalisme commercial qui va finalement donner le capitalisme industriel. Voilà donc sa façon de présenter les choses. Mais pour démontrer tout ça, il fait toute une série de manœuvres assez curieuses. Et il y a énormément d'archives là-dedans. Mais, par exemple, il y a aussi eu beaucoup de critiques. Et les critiques, par exemple, ont démontré qu'il y a pas mal de points aveugles, disons, dans cette analyse. Tout d'abord, il évite presque totalement de parler du contenu protestant du projet de Guillaume III. C'est comme si Guillaume III était un homme moderne sans religion. Et c'est un espèce d'acteur purement, disons, machiavélique. Et alors, donc, il y a ça. Deuxièmement, il évite de parler des rapports entre l'Angleterre, et l'Écosse et l'Irlande. Ce qui est quand même assez important dans cette affaire, parce que la résistance, finalement, menée par Jacques II, va avoir lieu plutôt, par exemple, en Irlande. Troisièmement, il n'y a même pas de contexte européen en allant en dehors de ce rapport avec l'Angleterre. Entre l'Angleterre et la France. Et d'ailleurs, je vais revenir justement à cette question-là. Est-ce qu'il y a un contexte plus large pour expliquer tout d'abord pourquoi Guillaume III a voulu faire ça? Pourquoi est-ce qu'il a décidé de débarquer et prendre l'Angleterre? Et comment est-ce qu'il est arrivé à avoir le soutien d'un certain nombre de personnes aux Pays-Bas qui ont donc financé son projet? Et quel était finalement le projet, à part le projet, disons, capitaliste et millénariste presque, de libérer l'Angleterre de la religion pour l'amener vers un avenir donc laïque. Alors, il y a plusieurs façons de prendre ces choses-là, mais je vais en fait prendre ça par une voie un peu compliquée, mais j'espère que vous allez voir pourquoi j'ai envie de passer comme ça. Rappelons donc que le contexte ce qui s'est passé juste avant 1688, c'est un moment extrêmement difficile dans les rapports entre protestants et catholiques en Europe. Donc, par exemple, il y a eu quand même ce moment extrêmement crucial qui est la révocation de l'édit de Nantes, où Louis XIV présenter une analyse assez curieuse de ce qui s'est passé dans le cadre de l'édit de Nantes, dans lequel il dit que Henri IV n'avait pas vu ou conçu l'édit de Nantes comme quelque chose qui resterait sur place, mais plutôt comme une espèce d'arrangement temporaire pour apaiser les esprits, et qu'Henri IV aurait finalement lui-même, s'il avait le temps, fait en sorte que la France deviendrait plus ou moins totalement catholique. En quelque sorte, il est en train de mettre en œuvre ce qui aurait été le vrai projet d'Henri IV, sauf que ça n'a pas été articulé comme ça à l'époque. Mais donc, vous voyez, il y a cet édit qui a des conséquences assez importantes. Je vais énumérer deux conséquences, c'est-à-dire tout d'abord, ça va poser un certain nombre de problèmes pour les missionnaires en Asie. Parce que quand les missionnaires se présentent ailleurs, ils sont obligés d'expliquer le fonctionnement, le niveau de tolérance du roi de France. Par exemple, les missionnaires français qui se retrouvent dans la cour de Chine, où ils ont demandé à Kangxi, l'empereur chinois, de leur donner un édit permettant les chrétiens et les missionnaires chrétiens de fonctionner dans ce royaume. C'est ce qu'on appelle l'édit de tolérance de Kangxi. On a aussi, au même moment, besoin d'expliquer pourquoi on n'a pas ce niveau de tolérance, même envers les protestants dans leur propre royaume. Donc il y a ce problème qui se pose. Mais bien sûr, il y a un problème qui est beaucoup plus important, c'est le fait qu'il y a une fuite des Huguenots, de la France à l'époque, et parmi ces gens, il y a précisément les personnes qui se sont installées en Angleterre. On peut mentionner un certain nombre de personnes, mais il y a une personne que je vais quand même juste mentionner parce qu'il a un rapport assez intéressant avec tout cela. C'est M. Jean Chardin, joaillier, voyageur, qui avait été en Perse et qui avait écrit un récit de voyage qui a eu un énorme succès, mais c'est un Huguenot. Et donc, à la suite de l'édit de Fontainebleau, il va prendre la fuite, il va s'installer aux Pays-Bas et il fait partie de la flotte de Guillaume III quand il débarque à Tobey. Jean Chardin, et d'ailleurs, finalement, il va devenir sujet anglais, il va changer son nom, va s'appeler désormais John Chardin à la fin de sa vie, et donc c'est aussi, ça fait partie de ce rejet et ce mouvement. Mais derrière tout cela, il y a aussi quelque chose, un autre événement sur lequel j'ai envie de revenir, et cet événement nous mène vers une Europe qui est beaucoup plus large que cette petite affaire, disons, entre Anglais et Néerlandais. Et là, je parle de quelque chose qui est un moment très célèbre, tout le monde le sait, et c'est donc Vienne, en juillet-septembre 1683. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Vienne en 1683? On sait que c'était un projet de la part des Ottomans qui n'a pas très bien marché, c'était un projet militaire. Les Ottomans se retrouvaient au début des années 1680, assez proche, en fin de compte, de Vienne. Mais alors là, vous voyez qu'en fait, ils sont retirés entre 1683 et 1700. C'est pour cela que les frontières sont autres. Mais donc, arrivant au début des années 1680, le grand vizir, Kara Mustafa, va décider de se lancer dans cette aventure qui est donc d'avancer avec son armée en direction de Vienne. Il va avoir énormément de succès assez rapidement et il est donc devant les murailles de Vienne déjà à l'été 1683. Alors là, il a mal calculé les choses. C'est-à-dire, il a décidé de ne pas avancer parce qu'apparemment, il croyait que la ville allait se rendre. Et apparemment, on dit qu'il ne voulait pas trop endommager la ville parce qu'il avait envie de prendre les richesses de la ville en tant que telle. Et il voyait très bien que s'il avait une espèce de politique de terre brûlée, ça risquait de créer trop de dégâts. Donc, plutôt que d'avancer, il est resté, il a décidé donc de faire le siège. Et ce qu'il a fait donc pendant à peu près deux mois et demi, juillet à septembre, et la ville s'est presque rendue. Donc, il y avait les gens à l'intérieur étaient assez mal placés, il y avait beaucoup de faim, il y avait beaucoup aussi de problèmes de maladies, etc. Et les Ottomans avaient plus ou moins miné les murailles. Donc, en fait, il restait que le coup de grâce. Que là, il y a eu un retournement. Et le retournement, c'est en effet que le roi de Pologne, Jan Sobieski, qui, depuis très longtemps, tout en étant catholique, avait été plus ou moins allié, ou sinon allié, pas ennemi des Ottomans, a décidé de changer de son côté. Et il est arrivé donc avec ses forces. Et l'arrivée de cette armée polonaise, entre autres, a finalement changé la situation. Et les Ottomans ont été donc obligés de se retirer. Et en se retirant, donc progressivement, dans les 15 ans ou 16 ans qui ont suivi, ils ont été obligés de se retirer de plus en plus. Et finalement, quand ils ont signé le traité de Karlovitz en 1699, en fait, ils ont perdu tout un bout de territoire donc en Europe centrale, ce qu'ils n'allaient jamais reprendre par la suite. Alors, ce moment-là vient, en 1683, est souvent présenté comme un moment extrêmement important et dramatique dans l'histoire occidentale, même trop dramatique, moi, je dirais. Par exemple, prenez le cas de ce petit texte écrit par Arnold Toynbee, dans lequel il nous dit qu'en effet, Vienne, en 1683, il le compare avec Stalingrad. Pas moi. Donc, il le compare avec Stalingrad il nous dit que, en effet, que l'Occident, il y avait toujours ce rapport dans lequel l'Occident avait été assiégé par l'Orient, et surtout par le monde islamique, etc., et que, en effet, la résolution que finalement on a trouvée en 1683, ça a changé une fois pour tous ce rapport. Et d'ailleurs, il arrive même à dire des choses assez exagérées dans lesquelles, par exemple, il dit même qu'il y a eu un siège ottoman de l'Occident, un Ottoman siege of the West, comme si siéger cette ville, c'était l'équivalent de siéger toute une partie du monde. Donc, voilà donc, cette façon de voir les choses, comme si ça aurait été un des moments les plus décisifs. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que dans la présentation de cette bataille, c'est présenté comme si c'était une opposition, disons, entre Occident-Orient ou entre chrétiens et musulmans. Mais à l'époque, en fait, ce n'était pas comme ça qu'on voyait les choses forcément. Parce que, par exemple, les Français n'ont pas pu participer dans cette bataille. Et d'ailleurs, ils étaient très ambigus envers cette bataille. Pourquoi ? Parce que l'allié des Français était quelqu'un qui s'appelait Tekeli Imre, qui est présenté ici d'une façon assez positive comme Emmerich contre Tekeli, hein, donc qui était un grand seigneur hongrois, allié avec les Ottomans pour des raisons extrêmement simples, c'est-à-dire parce que les Ottomans protégeaient les protestants. Alors, donc, ce qu'on voyait dans cette bataille, c'était protestants alliés avec les Ottomans contre les catholiques, et même pas toutes les catholiques, parce que les Français ont décidé de ne pas participer dans cette bataille. Et d'ailleurs, on dit, surtout les historiens des relations internationales, qu'une des raisons pour l'édit de Fontainebleau, c'était parce que Louis XIV était tellement mal à l'aise après la bataille de Vienne qu'il a eu en quelque sorte besoin de surcompenser envers la papauté parce qu'il n'avait pas participé à cette bataille, et donc il a décidé de montrer combien il était dur envers les protestants. C'est une raison parmi d'autres, mais néanmoins c'est une conjoncture qui se présente comme ça. Alors donc les Français qui dans ce contexte-là sont plutôt pour, je vais citer brièvement ce petit texte-là qui est sorti en 1685, écrit par quelqu'un qui a participé dans la bataille, un Écossais catholique qui s'appelle Alexander Tyler. C'est un petit poème qui dit, je vous livre le début, base apostate rebel, Count Tekeli by name, all Christendom scandal, Protestants shame. To find his imperial landlord new work, divorced all religion, strict match with the Turk. Quit cross for a crescent, the sun for the moon, the truth for a turban, takes Mecca for Rome. Donc, vous voyez que c'est le comte Tekeli qui a, selon cet écrivain écossais, un comportement assez scandaleux parce qu'il a échangé la vérité pour un turban et il a confondu la Mecque avec Rome, parce que ce qu'on fait quand on fait des alliances avec les musulmans. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que cette opposition Occident-Orient ou chrétien contre musulman n'était absolument pas claire à l'époque. Et on peut même aller au-delà de ça. En 1684, 85, 86, quand on lit des choses écrites dans la correspondance des uns et des autres en Angleterre, en fait, en Angleterre, en général, le siège de Vienne est pris comme un événement majeur négatif. C'est-à-dire que le fait que les Ottomans ont perdu, c'est considéré comme quelque chose qui va porter tort à l'Angleterre. Pourquoi ? Parce que les catholiques vont devenir trop forts, et il y a même des bruits qui courent en Angleterre que finalement il y aurait une alliance entre Louis XIV et Léopold les Habsbourg, et que ça va donner donc une espèce d'énorme poids aux catholiques. Et on sait que les espions de Guillaume III, qui étaient à Vienne, ont même rapporté des nouvelles chez lui en lui disant qu'il y avait une vraie menace parce qu'il y avait cette transformation possible. Et il semble d'ailleurs maintenant de plus en plus possible qu'une des raisons finalement qui a poussé Guillaume III vers cette invasion, c'est le fait qu'à la suite du siège de Vienne, il se retrouvait dans une situation où il se voyait menacé de plus en plus par un poids catholique prépondérant, et pour lui, donc, la solution était de prendre l'Angleterre. Voilà donc un lien possible. Je ne vous dis pas que c'était l'aspect déterminant dans l'affaire. Je ne dis pas non plus que... ces bruits étaient toujours pris comme argent comptant, mais c'est assez surprenant de regarder combien de personnes, par exemple, des pasteurs dans les églises de l'Angleterre qui disaient qu'ils s'inquiétaient plus pour le sort des Hongrois que pour ce qui s'est passé, par exemple, aux Amériques au même moment. Ou des choses comme ça. Donc, en fait, il y a eu tout un mouvement des protestants et qui a donc, en fin de compte, donné un soutien à cette invasion de Guillaume III avant qu'il n'ait eu lieu. Alors, en fait, cette histoire a eu des échos assez considérables un peu partout en Europe et même dans des endroits où on ne le soupçonne pas. Regardez par exemple ce texte-là. Qui est sorti donc en 1684, un an après Vienne, et c'est un texte en portugais qui s'appelle Eclipse da Lua Ottomana, donc l'éclipse de la lune ottomane, ou Compendio Histórico de todos os sucessos desta última guerra contra os ottomanos. Et donc là, vous aviez Léopold et vous aviez aussi Jan Sobieski, Jean III, roi de Pologne. Et dans ce texte-là, en fait, l'auteur nous dit qu'en effet, maintenant, on voit venir pas moins que la fin du monde. Donc, dans le cas portugais, ça va s'inscrire dans un contexte beaucoup plus large et plus ou moins millénariste. Et c'est sur cela que je vais donc passer un peu de temps pour voir, en fait, un autre effet, un autre écho de ce qui se passe à Vienne, dans les années 1680, à la fin des années 1680, mais cette fois-ci dans le monde portugais et dans le monde donc méditerranéen lié avec le Portugal et un peu avec l'Espagne. On sait qu'il y a eu à l'époque pas mal de ces textes qui ont été publiés, notamment par quelqu'un qui s'appelle José Freire de Monterreio Mascarenhas, qui était un portugais qui est très, très actif dans l'imprimerie, qui a publié pas mal de ses pamphlets, surtout portant sur l'Empire ottoman. Par exemple, ça, c'est un texte assez curieux que j'avais discuté autrefois, qui s'appelle « Emblema vivente », qui parle donc d'un monstre qui est paru dans l'Empire ottoman, un monstre qui a donc ce croissant sur sa tête, vous voyez la croix ici, et qui annonce donc la fin de l'Empire ottoman et finalement une espèce de paix universelle sous domination chrétienne qui va se produire donc à la fin du XVIIe siècle. Mais en fait, tout cela, ça se place dans un cadre, comme je vous ai dit, beaucoup plus vaste, et je vais juste rapidement énumérer quelques-uns de ces éléments pour faire un peu la synthèse. Et d'ailleurs, il faut dire que ma propre curiosité a été éveillée par le fait que j'ai trouvé quelques manuscrits il y a un an ou deux qui portent justement sur cette question-là, écrits dans les années 1680. Et je vais revenir sur deux ou trois de ces manuscrits. Il s'agit de manuscrits qui ont été écrits par quelqu'un qui, à l'époque, quand je les ai trouvés, je n'avais absolument pas de connaissance de cet auteur. C'est quelqu'un qui est un peu cartographe, un peu dessinateur et qui s'appelle donc Félix da Costa, qui est un Portugais qui a vécu entre 1639 et 1712. Et jusqu'alors, en fait, il était plutôt connu pour avoir écrit des textes portant sur la peinture. Par exemple, ce texte qui s'appelle Antiguidade da Arte da Pintura, dans lequel il parle de l'art de peinture et en fait aussi par rapport à la religion, etc. Mais il s'avère que Félix da Costa était quelqu'un qui était extrêmement actif dans la production de textes portant justement sur l'islam, sur la fin de l'Empire ottoman, sur l'histoire de l'Empire ottoman, et ainsi de suite. Et on verra pourquoi. Parce que Félix d'Acosta, donc, dans les années 1680-1690, fait partie de ces gens qui sont des lecteurs très avides de quelqu'un, qui est un intellectuel très, très célèbre à son époque, qui est le père Antonio Vieira. C'est qui le père Antonio Vieira? Je vous rappelle, c'est un personnage luso-brésilien qui était jésuite, qui a eu, malgré ça, pas mal de difficultés avec l'Inquisition parce qu'il avait des idées assez hétérodoxes et qui a beaucoup écrit sur des questions portant sur le rapport entre religion et politique à la fin du XVIIe siècle, notamment ce texte qui est Historia del futuro, l'histoire du futur, mais il a aussi écrit d'autres choses portant sur ce qu'il appelait, c'est quand même une phrase assez parlante, le cinquième empire, ou quinto imperio. C'est quoi le cinquième empire? On va revenir sur cela. Mais en fait, c'est quelqu'un qui se base sur l'interprétation de textes anciens pour repenser la géopolitique de la fin du XVIIe siècle. Et d'ailleurs, qui a un réseau assez énorme de gens. Et entre autres, on verra que parmi ces contacts, il y a Menasse Ben Israël, qu'on avait donc brièvement discuté il y a deux semaines. Alors, le père Vieira s'inscrit dans la ligne de ce qu'on appelle le sébastianisme. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui croit encore que le roi Sébastien de Portugal, mort en Afrique du Nord en 1578, était toujours vivant. Il était caché quelque part. Donc, vous voyez que ça a quelques éléments des mythes sur le roi Arthur et des choses comme ça, mais avec un contenu fort politique. Et il y a une production assez importante pendant tout le XVIIe siècle par les Portugais de ça. Cette production n'était pas toujours très respectable. Ça a aussi posé des problèmes pour un certain nombre des auteurs par rapport à l'Inquisition. Mais le père Vieira était quand même très, très attaché à ces idées sébastianistes. Et c'est d'ailleurs un milieu sébastianiste dans lequel on retrouve donc Félix da Costa. Félix da Costa, qui est donc lui aussi du même avis. C'est quoi le contexte plus large? C'est un contexte dans lequel, bien sûr, il y a différents éléments qui vont jouer les uns contre les autres. Voilà un texte donc assez intéressant, ce qui vaut la peine d'analyser avec plus de temps que j'ai aujourd'hui, mais remarquons donc l'existence de cet autre texte de Menasse ben Israël. On avait parlé de l'espérance d'Israël, et ça, c'est un texte qui s'appelle Piedra Gloriosa ou de la Statua de Nebuchadnezzar. Donc, c'est quoi? C'est une référence à ce fameux texte du livre de Daniel, dans lequel, comme il dit, una de las más claras e infalibles profecías que se hallan en toda la Sagrada Escritura es aquel admirable sueño que Dios reveló a Nebuchadnezzar. Donc, le rêve de Nebuchadnezzar, dans lequel il voit un certain nombre de choses, et c'est donc le prophète Daniel qui va donner l'interprétation. Ce livre que Menasse ben Israël publie donc dans les années 1650, peu avant sa mort, d'ailleurs, a aussi la spécificité d'avoir quatre gravures de Rembrandt. Dans lequel donc Rembrandt a dessiné plusieurs choses différentes. Donc là, vous voyez cet aspect de révélation. Ça, c'est David et Goliath. Et là, vous aviez donc la fameuse statue dont il s'agit de l'interpréter, où on voit quoi? En effet, on voit cette histoire des cinq empires, les quatre empires du passé et le cinquième empire de l'avenir qui va donc annoncer le futur, un futur donc cher aux millénaristes de l'époque. Alors, donc, Menasse ben Israël qui va puiser dans cette tradition déjà ancienne qui avait été renouvelée au XVIe siècle et lui, au XVIIe siècle, est en train de reprendre ça. Donc, vous voyez un élément. Mais il y a un autre élément qui est aussi très important, rappelons-nous de ça, qui va faire le lien entre ce monde des textes qui circulent et le monde à la fois lusitanien et le monde de l'islam. Parce que Menassé n'est pas trop concerné par le monde de l'islam, comme c'est quelqu'un qui passe son temps plutôt dans l'Atlantique, par rapport aux Pays-Bas, par rapport à l'Angleterre. Mais il y a aussi, bien sûr, cette autre histoire qu'il ne faut surtout pas oublier, hein, qui est étroitement en rapport avec ça, qui est l'histoire, et je passe sur ça brièvement, mais c'est quand même un élément clé, qui est l'histoire donc, de Sabtaï-Tzvi. Rappelons-nous de qui était Sabtaï-Tzvi. C'était un juif séfarade de Smyrne, né en 1626, qui a fait des études de Kabbalah et qui était assez bien considéré déjà quand il avait 18 ou 19 ans, mais donc qui finalement, en 1648, année fatidique, le moment de la fin de la guerre de 30 ans, va se déclarer messie. Et donc, il déclare qu'il est le messie. Vous voyez ici, il y a... Ça, c'est là, un texte néerlandais, « Vermeenden Messias de Jode ». Et donc qui va pendant à peu près 18 ans, entre 1648 et 1666, circuler entre plusieurs endroits de l'Empire ottoman. Il est au Caire, il est à Constantinople, etc. Et il crée autour de lui de plus en plus de bruit. Il y a un mouvement populaire qui se fait. Il y a énormément d'inquiétude parce qu'on dit qu'il va finalement détruire l'Empire ottoman. Et enfin, en 1666, le sultan va décider, et ses vizirs vont décider donc de prendre des mesures contre lui. Il sera donc mis en prison et au bout d'un certain temps, après un passage mystérieux dont on ne connaît pas vraiment les détails, il décide de se convertir à l'islam. Donc, en 1666, il devient musulman. Il est exilé par la suite dans les Balkans et il va passer donc, les dernières 10 années de sa vie avant de mourir en 1676. Mais rappelons-nous donc de ce mouvement-là. Pendant toutes les années 1650, début des années 1660, il y a cette inquiétude qui tourne autour de l'idée du retour d'un Messie, autour de l'interprétation de textes anciens, autour, par exemple, justement, de comment relire le livre de Daniel, etc. Cela est très important, surtout dans les milieux séfarades et dans les milieux portugais et espagnol, c'est-à-dire des gens qui parlent espagnol et portugais, parce que c'est quand même une langue, à part l'hébreu, qui est une langue assez importante pour la circulation de ces textes, etc. Et maintenant, grâce aux travaux d'un historien portugais, José Alberto Tavim, on sait que l'histoire de Sabtaï-Tzvi a créé énormément d'inquiétudes au Portugal même. Et que dans les années 1650-1660, il y a eu une espèce de croisement entre ce qu'on appelle ce mouvement sabbatien et le mouvement donc millénariste prôné éventuellement par des gens sébastianistes comme le père Vieira et autres. Alors, donc, Félix de Costa s'inscrit dans ce mouvement. Mais il vient un peu plus tard, il vient dans les années 1680, mais il est toujours en train de puiser dans ses matériaux. Et donc, vous voyez, par exemple, là, il a dans ses manuscrits quelque chose qui est censé être, justement, il dit « quarta besta vista por Daniel ». Il écrit la quatrième bête vue par Daniel, donc il y a toute une explication autour de ça. Mais ce qui fait la nouveauté de Félix de Costa, c'est qu'il va aussi puiser ailleurs. Et il va puiser où ? Il va donc puiser dans quelque chose qui n'était pas du tout considéré comme respectable chez les Juifs comme menace à Ben Israël, c'est dans ses apocryphes d'Esdras. Donc, le texte d'Esdras qui a un aspect qui est assez curieux, hein, je vais vous lire rapidement. Toujours, il y a le prophète qui a un rêve, hein, et voilà ce qu'il voit dans son rêve. « Dans la nuit du lendemain, je vis en songe un aigle qui montait de la mer. Il avait 12 ailes et 3 têtes. Il s'envola avec ses ailes dans toute la terre. Tous les saints du ciel soufflaient sur lui et les nuées se rassemblaient sur lui. De ses ailes naissaient des têtes et ses têtes étaient petites et minces. Ses têtes étaient en repos, celle du milieu était plus grande que les autres, mais elle était tranquille avec elle. » Et donc, il y a cette histoire de l'aigle avec plusieurs têtes, plusieurs elle sera. Et finalement, il y a une espèce de lutte entre les têtes et lutte entre les ailes. Et finalement, ça va donner un résultat où finalement, il y aura une espèce d'aigle relativement réduite qui va rester à la fin et un lion qui va sortir du forêt en rugissant et donc en disant à l'aigle d'aller en quelque sorte se calmer. Donc il y a cette confrontation assez étrange, il faut le dire, entre le lion et l'aigle, qui a aussi donné lieu à beaucoup d'interprétations dans les textes de l'époque qui s'intéressaient à ça. Alors, cette histoire qui vient donc d'Esdras, normalement, n'est pas pris très au sérieux par les Juifs, il faut le dire. Et en fait, ce texte, normalement, ne fait pas partie de... il n'y a pas une histoire de réception chez les Juifs ni chez les Sabbatiens. Mais c'est pris très au sérieux par le père Vieira et c'est aussi pris très au sérieux manifestement par Félix de Costa. Et voilà, vous voyez un peu comment il présente les choses très rapidement. Je vous prie de m'excuser pour la qualité de cette image parce que ça, c'est l'aigle au début. Vous allez voir que ça devient un peu plus clair. Alors, donc, ça va se continuer un peu comme ça. Il va donc commencer à décrire le développement de cet aigle. Mais en fait, ce que vous ne voyez pas probablement, même si je baisse un peu les lumières, c'est que pour Félix da Costa, on peut décomposer cet aigle. Parce que pour lui, c'est très simple, l'aigle, c'est l'Empire ottoman. Et si vous regardez ici, en fait, c'est le nom des sultans. Et en fait, il va faire en sorte qu'il va calquer sur cette histoire du rêve du prophète Esdras toute l'histoire de l'Empire ottoman. Ce qui n'est pas sans intérêt, mais c'est aussi assez difficile à faire. Il a pas mal d'érudition. Apparemment, il avait lu énormément de livres sur l'Empire ottoman pour pouvoir faire ça. Hein. Donc, vous voyez hein, les deux têtes qui commencent à avoir une lutte internecine, pour ainsi dire. Et donc, finalement, pour arriver à ça, ce qui n'est pas sans intérêt, c'est comment il va résoudre le problème. Parce que là, vous avez ce qui reste de l'Empire ottoman. Et si vous regardez ici, vous ne voyez pas encore très clair, on voit écrit « O encuberto ». C'est qui ? C'est Dom Sébastien. Alors, donc, pour lui, la résolution de l'affaire, c'est la fin de l'Empire ottoman qui est produit par le retour du roi Sébastien. Et donc, le lion n'est autre que le roi Sébastien. Et la fin de l'Empire ottoman est donc prédit dans ce texte. Et pour faire cette démonstration, il faut dire, il se livre à un exercice assez compliqué où il va nous raconter dans son texte toute l'histoire de l'Empire ottoman depuis sa fondation et même avant avec les Seljouks, en puisant sur le texte de Richard Knowles, en puisant sur le texte de Lenclavius, mais aussi, par exemple, d'un auteur anglais que je ne connais pas, qui s'appelle apparemment John Percival Egmont, qui avait été ambassadeur envoyé anglais à Naples et qui apparemment aurait écrit un texte perdu sur l'histoire de l'Empire ottoman. Et alors donc, en puisant tout cela, il nous fait ce texte pour finalement l'encadrer dans ce contexte millénariste. Alors, j'arrive donc à la fin. Vous voyez donc en prenant un événement encore, comme on avait fait la dernière fois pour le dessin occidental, cette fois-ci autour de 1688, ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est en fait comment, avec ces déplacements latéraux, avec les traces textuelles, on peut quand même arriver à voir qu'il y a des réseaux beaucoup plus compliqués et beaucoup plus subtils qu'on voit parfois. C'est-à-dire, même si on n'arrive pas à dire qu'on explique la révolution de 1688 en Angleterre à partir de ce qui se passe à Vienne, je pense qu'on ne peut pas faire comme si les événements en Europe dans les années 1680, et donc a fortiori aussi aux Pays-Bas et finalement en Angleterre, n'ont rien à voir avec cette histoire plus large qui va au-delà de ça. Et on voit également que ça a des effets sur les calculs, ça a des effets assez bizarres sur des mentalités assez diverses, comme on voit chez les milieux sébastianistes et autres, et même des gens qui, en fin de compte, n'étaient pas très concernés par l'affaire, parce que qu'est-ce que les Portugais, finalement, avaient à faire pour résoudre le problème de l'Empire ottoman à la fin du XVIIe siècle? Pas grand-chose. Mais ça trouble encore les esprits, il y a des traces qu'on trouve un peu partout. Alors, vous voyez que depuis le départ, mon souci était d'aller au-delà de cette espèce d'histoire comparée qu'on a toujours pratiquée. Hein. C'est-à-dire l'histoire comparée qui est devenue une espèce de façon classique de faire l'histoire globale, basée sur cette idée de convergence-divergence. Vous voyez qu'il y a plusieurs façons de faire ça, où on voit même un texte comme ça, paru récemment, où l'histoire de l'Europe et la Chine est toujours vue dans cette espèce de va-et-vient convergence-divergence. Je pense qu'il est beaucoup plus fécond, beaucoup plus intéressant, de plusieurs points de vue, de reprendre les choses donc, sur un autre biais, qui est plutôt donc, celle des connexions, même si les connexions sont parfois un peu inespérées, parfois difficiles à établir. Mais en réalité, si on commence à regarder même l'histoire de la Chine à la fin du XVIIe siècle, si vous regardez par exemple le problème de la frontière russo-chinoise à la fin de, autour de 1688, parce que les négociations de la frontière russo-chinoise ont été faites en 1688-1689. Ils ont été faits donc par les Russes et les Chinois et les Manchous, mais il y avait aussi une présence jésuite, il y avait aussi une présence des mathématiques apportée par les Flamands et les Portugais à la cour de la Chine. Donc, même pour résoudre cette question-là, parfois, il faut aller assez loin pour trouver des solutions. Et voilà, donc, juste quelques réflexions pour terminer donc, ce cycle. Je vous remercie.